then we will weaken ourselves for what is really the issue. And then behind that all lies a very personal and human feeling that I don't think old men ought to promote wars for young men to fight.
Salon du livre d'expression populaire et de critique sociale sur Radio PFM 99.9. On évoque maintenant un petit bouquin, mais ô combien instructif, sorti aux éditions du Commun, qui s'appelle « Petit manuel critique d'éducation aux médias », avec comme sous-titre « Pour une déconstruction des représentations médiatiques ». Et on est en communication par Internet pour en parler avec deux des auteurs de ce livre collectif, Scheherazade Chekaik Shaila. Salut.
Bonjour.
Journaliste, pigiste et documentariste, tu es aussi correspondante dans la région de France pour Libération. Et à tes côtés, Julien Pitinome. Salut Julien.
Salut, salut.
Tu es photographe, tu navigues entre Roubaix et Paris, tu fais partie du collectif Œil de Fumigène Mag et tu coordonnes aussi le projet Labo 148 dont on reparlera.
Ok.
Alors vous faites tous les deux partie de ce collectif qui s'appelle La Friche. Actuellement vous êtes en résidence à Marseille, c'est ça ? Il fait beau, qu'est-ce que vous y faites là-bas à Marseille alors ?
Alors un, il fait pas beau et on est hyper déçus parce qu'on nous avait pas du tout vendu ça. Et deux, on y fait une résidence mélangée avec une formation et des ateliers dans un quartier bien précis de Marseille qui s'appelle La Cravache. Et qui est un quartier en fait, de copropriété privée avec des problématiques assez intéressantes en termes d'habitat, de circulation dans la ville, d'espace privé, d'espace public. Et donc, voilà, on s'y installe pour toute la semaine avec des associations qui nous ont invités, qui sont du coin et qui veulent qu'on travaille ensemble pour faire émerger des récits autour de la vie de ce quartier et peut-être proposer des solutions pour faire évoluer certaines situations dans la vie de ce quartier.
Et on réalise aussi le premier épisode d'une série documentaire qui débute ici à La Cravache à Marseille, où on va à la rencontre des habitants justement pour parler de ce quartier, notamment un mur qui va être créé, qui va séparer ce quartier d'un autre et qui va générer plein de problèmes, notamment en termes de sécurité pour que les jeunes, les enfants aillent à l'école, etc. Ils sont obligés de faire un détour d'un kilomètre. Donc voilà, donc... on fait une école libre un peu particulière de formation, atelier et réalisation collective.
Alors, je l'ai dit, vous êtes journaliste, mais qu'est-ce qui vous a amené à proposer à différents publics, jeunes ou moins jeunes, des actions, des ateliers éducatifs autour des médias ? Comment est-ce que vous êtes arrivé à l'éducation aux médias dans vos parcours respectifs ?
Alors, dans le mien, en fait, en étant journaliste, j'avais toujours cette envie d'expliquer un peu comment fonctionne mon travail et puis de m'interroger en discutant avec les gens sur finalement à quoi sert ce travail, dans lequel moi, je mettais beaucoup la notion d'être un métier d'utilité pour les gens, etc. Et donc, voilà, j'avais envie de confronter ça au regard des autres et des non-journalistes. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de faire une résidence de journaliste pendant 6 mois, ce qui a fait que j'ai vraiment pris ce temps pendant 6 mois de ne faire que ça, que des ateliers en milieu scolaire, hors scolaire, où on discute des médias, où on monte des projets, où voilà, on réfléchit ensemble à créer des nouveaux formats, etc. Et donc ça a été vraiment le point de bascule entre ma pratique qui jusque-là était purement que journalistique. Et aujourd'hui, le fait que je conjugue vraiment les deux et que je fais à la fois beaucoup de journalisme, toujours, mais aussi beaucoup d'ateliers d'éducation aux médias et que j'essaie de trouver un peu un équilibre entre ces deux univers.
Julien ?
Et moi, je suis arrivé un peu différemment, enfin complètement différemment d'ailleurs à ces ateliers-là. Mais moi, je suis éducateur de formation et donc je travaille dans les quartiers et dans des foyers. J'ai travaillé pendant 10 ans et la photo s'est invitée dans ma vie. Et du coup, voilà, j'ai basculé tout doucement vers que de la photo. Et à un moment donné, je suis parti vivre à Paris et j'ai eu un gamin et je suis rentré à Roubaix, en fait. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour allier un petit peu tout ce que je fais entre le photojournalisme et aussi mon passif d'éducateur et d'intervenant social. Et voilà, je me suis dit, ben, c'est l'occasion de, de, de mêler un petit peu tout ça. Et c'est présenté, quand je suis revenu dans le Nord, en fait, le projet du Labo 148 à Roubaix, qui est un projet participatif et dans lequel, en fait, on est complètement investi avec ma collègue Flora aussi, qui est dans le collectif. Il y a Lucas aussi. Et voilà, donc du coup, aujourd'hui, ben voilà, moi je suis arrivé par ce parcours-là et aujourd'hui, ben j'ai une pratique de photojournaliste, une pratique documentaire et aussi du coup des ateliers, des formations auprès de différents publics, comme tu disais, des jeunes, des moins jeunes, avec aussi une envie de transmettre et de former d'autres personnes, en tout cas d'inviter d'autres personnes à réfléchir sur plutôt une éducation populaire aux médias, une éducation par le faire, plutôt qu'une éducation très descendante, en tout cas comme nous, on n'imagine pas travailler, quoi.
Alors, l'éducation aux médias et à l'information, c'est quelque chose qui existe depuis un certain nombre d'années, notamment au travers des programmes de l'UNESCO. En France, il y a le CLEMI, le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, qui existe depuis 1983, je crois. Mais comme c'est dit en quatrième de couverture de votre livre, c'est depuis 2015 et les attentats de Charlie Hebdo qu'on a vu apparaître en France une politique vraiment volontariste de développement de l'éducation aux médias. En gros, quoi, il fallait désintoxiquer la jeunesse, notamment la jeunesse des quartiers populaires, de tout ce qui est théorie du complot, fake news, etc.
En tout cas, c'est ce qui a nourri en fait cette idée de il faut que les journalistes rencontrent des jeunes pour discuter de l'importance de la liberté d'expression, de la place des journalistes dans la société, etc. C'était vraiment une réaction après Charlie. Et effectivement, derrière tout ça, on a eu droit à un discours politique d'inscrire ça dans la volonté de lutter contre la radicalisation. Et du coup, avec tout ce que ça a impliqué en termes de représentation de qui sont les potentiels radicalisés, et donc qu'est-ce qu'on doit aller faire avec eux, à savoir voilà, les réinformer ou leur apprendre à bien s'informer pour ne pas tomber dans la radicalisation. Et nous, très vite, quand on a senti ce discours monter, on s'est dit, oulala, attention, on pense qu'il y a d'autres choses qui se jouent et que l'éducation aux médias et à l'information peut amener à faire émerger d'autres choses que lutter contre la radicalisation. Parce qu'en fait, quand on était sur le terrain, on n'était pas confronté tant que ça à des jeunes ultra-complotistes ou prêts à basculer dans la radicalisation. Mais on était confronté à plein de situations du quotidien qui faisaient qu'on considérait que l'éducation aux médias et à l'information ne devait pas être utilisée uniquement dans ce sens-là et financée que pour ça.
Et c'est que voilà, c'est une vision beaucoup plus globale de l'éducation aux médias, en fait, qui est que en fait ça s'inscrit dans un parcours de vie, tout simplement, en fait, que c'est pas juste l'éducation aux médias, c'est pas que de la fake news, en fait. Sinon, c'est comment on s'approprie les espaces médiatiques, c'est comment on comprend la fabrique de l'information. Donc quand tu comprends comment ça se fabrique, en fait, tu peux mieux t'approprier et du coup mieux décrypter, mieux analyser comment l'information tu la reçois, comment les médias aussi la produisent. Donc voilà, donc c'est vraiment aussi de se dire que il y a cette bascule en 2015, parce que l'éducation média, juste pour revenir un petit peu dessus, on n'invente rien aujourd'hui. C'est quelque chose qui existe depuis 30, 40 ans dans les quartiers, depuis d'ailleurs qu'il y a des médias. Et d'ailleurs, les radios sont les premières pour moi, et on fait un big up à Radio PFM. Les radios, en fait, sont les premiers vecteurs, en fait, aussi, parce qu'elles sont présentes sur le terrain depuis 30 ans, 40 ans bientôt. Voilà, et que aujourd'hui, on a déjà des acteurs qui travaillent, on a juste des façons de faire qui sont parfois différentes, mais juste, on peut aujourd'hui, avec toutes les personnes qu'il y a autour de nous, et notamment dans les médias avec lesquels on travaille, on participe, et ben en fait, il y a des choses à faire avec les personnes, quoi. Et donc, moi, avec cette idée de se dire qu'on doit permettre aux gens d'avoir les outils pour se saisir des médias, de créer leurs propres médias aujourd'hui, parce qu'on est dans une société qui va tellement vite avec les réseaux sociaux, avec les smartphones, avec tout ça, qu'en fait, déjà, nous sommes médias. Et donc, voilà, l'idée, c'est de permettre d'apprendre à comprendre, de comprendre comment ça fonctionne. Et la fabrique de l'information, c'est quelque chose qui est pour moi importante. Et quand tu sais comment ça se fabrique, bah, tu peux mieux te saisir des choses. Et voilà, donc c'est un peu ça, le biais dans lequel, enfin, en tout cas, moi, sur lequel je travaille et que collectivement, on fait avec la friche.
Then we will weaken ourselves for what is really the issue. And then behind that all lies a very personal and human feeling that I don't think old men ought to promote wars for young men to fight.
America's lost somewhere inside of Littleton. 11 million children born in Ritalin. That's why I don't run for the sake of Ritalin. False media. Don't need it, do we? Pilgrim, slave, Indian, Mexican. It looks real fucked up for your Mexican. That's why I don't rhyme for the sake of riddling.
If I can't work to make it, I'd rob and take it. Either that or me and my children is starving and naked. Rather be a criminal pro than a follow the matrix. Hey, it's me, the monster, y'all done created. I've been inaugurated. Keep the bright lights out of our faces. You can't shake it, it ain't a way to swallow the hatred. Ain't fire, holla, buy the dollar, nothing is sacred. We gon' pimp the shit out of nature. Send our troops to get my paper. Tell them stay away from them skyscrapers. Ain't long before you get y'all acres. I'ma show them who the global gangster. Since me the FOMO, yeah, thank you. I'ma make you feel a little bit safer. Because it ain't over. See, that's how we get your fear to control you. But ain't nobody under more control than a soldier. And how could you expect a kid to keep his composure when all sorts of thoughts fall for exposure again?
America's lost somewhere inside of Littleton. 11 million children on Ritalin. That's why I don't rhyme for the sake of Ritalin. False media. Don't need it, do we? Pilgrim, slave, Indian, Mexican. It looks real fucked up for your Mexican. That's why I don't rhyme for the sake of Ritalin. False media, we don't need it, do we? America's lost somewhere inside of Littleton. 11 million children are on Ritalin. That's why I don't rhyme for the sake of Ritalin. False media, we don't need it, do we?
De Roots featuring Wadud Armad en 2006 sur l'album Game Theory, le titre False Media. On est toujours en compagnie de Sheherazade Sheikh Shaila et Julien Pitinome du collectif La Friche pour un entretien autour de leur petit manuel critique d'éducation aux médias. Alors, le livre dont vous êtes les co-auteurs évoque cette tension dans l'éducation aux médias et à l'information entre d'une part des injonctions politiques dont on a parlé, mais ce qui est décrit aussi comme dans le livre comme une forme de normalisation, hein, le bon usage des médias, et puis la dimension éducation populaire que tu évoquais, Julien. Il y a souvent ce terme qui est utilisé dans le livre, c'est celui d'émancipation, émancipation des publics, émancipation des jeunes. Alors, qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière ce terme d'émancipation ?
Ben, ça fait le lien, en fait, avec ce que je disais tout à l'heure sur cette idée d'émancipation, c'est-à-dire que tu as le droit aussi de voir et de rêver, de vivre d'autres choses que celles qu'on pourrait te cantonner, enfin, dans lesquelles on pourrait te cantonner. Moi, je peux prendre mon exemple tout simplement de mon parcours de vie. En fait, moi, je suis né à Roubaix, j'ai grandi à Tourcoing et j'ai grandi dans un quartier populaire. Et je me dis que j'ai pas eu cette chance-là aujourd'hui de me saisir des médias, en fait, à cette époque-là, et que aujourd'hui, en fait, on a tout ce qui est à notre portée pour créer des choses. Et cette idée, c'est de prendre la parole, c'est prendre le pouvoir, en fait, sur le pouvoir d'agir. Et cette idée de prendre de la place aussi dans les médias quand t'en produis, quand t'es jeune, en fait, aussi, c'est aussi te dire que t'as une voix et que cette voix, elle existe et qu'elle peut être écoutée et entendue. Et quand on parle, pour moi, en tout cas, d'émancipation, c'est aussi s'autoriser à voir autre chose que ce qu'on a en face de nous. C'est aussi de se dire qu'on peut voir plus loin et qu'on peut expérimenter des choses, qu'on peut s'approprier, enfin voilà, grandir avec toutes ces choses qu'on apprend. Et se dire que voilà, on a le droit aussi de rêver à des choses qui nous semblent parfois impossibles parce qu'on ne les connaît pas, ou alors qu'on ne nous propose pas aussi.
Sheherazade, sur l'émancipation ?
En fait, pour nous, ça passe du coup par plusieurs étapes, et notamment l'enjeu de la prise de conscience d'un certain nombre de choses qui nous entourent ou de situations qu'on peut vivre, et du coup de mettre des mots sur ça Pour nous, c'est déjà une étape vers cette émancipation. Et le fait, on accorde beaucoup d'importance aux récits, au fait de faire émerger des récits de vie, mais aussi des regards sur des situations et puis de les valoriser. Et pas seulement de juste se raconter, mais aussi de raconter le monde. Le MI, on le fait vraiment à ces deux niveaux. Et déjà, c'est une forme d'émancipation parce qu'effectivement, on permet à un discours d'exister, d'être vu, d'être entendu. Et donc, les gens se sentent considérés. Et je pense que c'est important, en fait, dans un parcours de vie, d'avoir le sentiment que sa parole compte. Compte autant que celle des autres qui sont peut-être plus médiatisées. Et ça participe de l'émancipation, donc on fait aussi de l'EMI dans ce sens-là.
Alors, ce livre, j'ai trouvé qu'il était vraiment très intéressant et on espère qu'il donnera envie aux profs, aux élèves, à celles et ceux qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans un média. On espère que ça leur donnera envie d'organiser des projets éducatifs, médiatiques. Il y a pas mal de retours d'expérience dont il est question dans ce livre. On peut citer Primitivi à Marseille, Teleduca à Barcelone, la classe média du côté de Tours. Scheherazade, toi, tu étais intéressé puisque tu as fait une interview à propos de l'Offener Canal de Magdebourg. Est-ce que tu peux nous en parler?
Alors, en fait, c'est une télévision, c'est une télévision participative qui a un canal de diffusion comme les autres chaînes de télévision et qui est financé en partie par de l'argent public, par le biais de la redevance. Alors, c'est pas énorme, mais ce qui est assez intéressant, c'est que en fait cette chaîne met à disposition tous les outils techniques pour faire son émission. Et donc, n'importe quel habitant peut venir avec son idée et dire, moi, j'ai envie de faire une émission sur... Il y avait l'exemple de ce jeune qui voulait faire une émission sur les tramways et donc qui a proposé une chronique et donc qui a été accompagné par l'équipe. Donc, l'équipe est vraiment au service, en fait, des idées des habitants et des habitantes qui veulent monter une émission pour leur télévision. Et donc, ça fonctionne comme ça, c'est très libre, on rentre, on sort, on peut venir faire une seule émission, mais on peut aussi s'investir dans une émission qui va durer 2, 3, 4, 5, 10 saisons et qui va avoir son public. Et en fait, c'est ce qui est assez chouette dans cette télévision assez particulière, c'est que du coup, c'est ce que dit Bettina, qui est la directrice dans l'interview, c'est en fait une fenêtre aussi sur Magdebourg, et sur ce que finalement les médias traditionnels dans leur secteur ne documentent plus parce qu'ils s'y intéressent moins, parce qu'ils ont moins le temps d'aller sur le terrain, enfin pour plein de raisons. Et donc là émergent des idées, des projets d'émissions directement des envies des habitants et des habitantes à qui on met à disposition tous les plateaux techniques, tout l'accompagnement éditorial dont ils ont besoin pour que ça devienne concret et que ça puisse être diffusé. Donc voilà, je ne sais pas si ça permet de bien comprendre ce qu'est l'Offener Canal, mais je me dis que ça peut amener, et c'était aussi intéressant de l'avoir dans le livre, parce que ça peut amener aussi une réflexion sur la télévision publique en France, qu'on finance avec nos impôts, donc avec notre argent, de l'argent public, et dans lequel finalement, parfois, on s'interroge sur la question de la représentativité des gens, sur la manière dont certains choix éditoriaux sont faits, et où en fait, là, on se rend compte qu'il y a des modèles de télévision qui peuvent être financés par l'argent public aussi, et qui en fait sont vraiment des outils au service des habitants et des habitantes, et pas simplement des diffuseurs de contenu faits par des professionnels qui sont peut-être hors des réalités locales de ce que les habitants et les habitantes ont envie de raconter sur ce qui les entoure.
Autre projet dont il est question, bien sûr, c'est le Labo 148 que, Julien, toi, tu coordonnes du côté de Roubaix. Est-ce que tu peux nous en parler à nouveau pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas?
Ben oui, évidemment, il faut l'expliquer toujours. Le Labo 148, c'est un projet média participatif avec des jeunes de 15 à 30 ans qui sont issus de Roubaix et de la métropole lilloise et qui est porté par la Condition publique à Roubaix, qui est un établissement public de coopération culturelle, donc il y a un lieu culturel. Et ce qui fait un peu l'originalité de ce projet média, c'est qu'il est porté par une structure culturelle. Et du coup, avec Flora Béouin, on a participé à la création de ce projet il y a 4 ans maintenant, au sein du Labo 148, qui est vraiment un labo physique qui s'appelle le Labo 148, où il y a dans l'année 30 à 40 jeunes qui sont accompagnés pour réaliser des productions aux frontières du journalisme et des pratiques artistiques, avec cette idée qu'on crée un espace physique, et le Labo 148, qui est un espace aussi d'expérimentation, dans une société où l'expérimentation, on n'en veut pas trop et on essaye de pas trop bouger. Donc voilà, avec aussi se dire qu'on peut créer des choses collectivement, permettant à des jeunes de se rencontrer aussi. Et surtout, toutes les productions du Labo 148, elles vont à la rencontre de quelqu'un. Justement, à contre, on va dans cette idée qu'aujourd'hui, on a de moins en moins d'occasions de rencontrer des gens. Et que par le biais des médias et de ces productions-là, en fait, eh ben, on va créer du lien social, pas qu'en tant que journaliste uniquement, mais en tant que personne en fait, qui habite aussi ces territoires-là. Et donc, voilà, on réalise des productions extrêmement variées, des émissions de radio, à des chroniques dessinées, des reportages photos, des vidéos. Et on a sorti une série documentaire qui s'appelle « Des racines et des rêves », qui est sortie il y a un mois exactement, sur France 3 et coproduite avec le Labo 148, et la boîte Fab Lab Channel, qui est une invitation à voir Roubaix autrement à travers le regard d'un jeune qui s'appelle Théo et qui se questionne un peu sur ses identités multiples, parce que c'est un franco-camerounais, mais c'est un roubaisien camerounais aussi. Et donc, du coup, voilà, il va à la rencontre d'autres créatifs, d'autres artistes pour nous montrer une autre facette de ce qu'est Roubaix et qui est une ville extrêmement riche avec des jeunes qui font vraiment des choses de dingue. Et le labo, je pense, contribue aussi à cette visibilisation de ces parcours-là. Donc voilà, donc un projet participatif et qui marche assez bien. Toujours aujourd'hui, les problématiques de financement, etc. de ces projets-là. On aimerait qu'il y en ait plus. On aimerait travailler plus, ou en tout cas développer plus ce projet-là. Mais c'est un projet qui ne génère pas d'argent puisque même les productions qu'on réalise, elles sont réalisées sur du temps long. Et donc, du coup, voilà. Donc, il y a des modèles économiques à trouver. Mais en tout cas, ce projet du Labo 148, aujourd'hui, après 4 ans, est aussi l'endroit où nous, on s'est fédérés, rencontrés et qui a permis de créer la friche à un moment donné. Et dans tout un parcours de formation d'éducation média, de se dire que, eh ben, il y a le Labo 148. Aujourd'hui, il y a un Labo 148 junior, même pour les plus jeunes, pour les 12-15 ans. On peut se former, produire ensemble, et ceux qui ont envie de se professionnaliser, il y a la possibilité de travailler aussi avec la friche. Voilà, donc un projet qui génère vraiment beaucoup de choses et de liens entre nous, avec des jeunes et avec plein d'autres mondes.
Je m'appelle Teriosa, j'ai 18 ans. Je suis arrivé à Aruba à l'âge de 3 ans. Je me suis lancé pour défi d'écrire un texte sur un sujet qui a beaucoup nourri mon écriture, mes racines africaines. Pour l'écrire, je vais partir à la rencontre de jeunes qui partagent ses origines, pour que la plupart ont grandi comme moi, à Roubaix.
Je m'évite les triples, les zéros, vis, si tu sais, une devise des liens tissés, petite meuf des terres, paupières plissées, des aides berbères pour épicer, je viens de Roubaix, je t'en fais l'odyssée, c'est pas qu'on rive, ni qu'on s'y plaît, on connaît le réseau, les IP, on a trop de nifs pour les piper, la reste m'accueille en VIP.
Je pense que, et en vrai, je me suis rendu compte, je pense que ça va mettre fin à ce questionnement. Je pense vraiment. D'avoir tous ces avis, cette question de double identité, de métissage, je pense que ça va mettre fin à cette question, de cette réflexion que j'ai et que j'ai eue depuis petit sur est-ce que je suis français, est-ce que je suis camerounais, est-ce que je suis les deux. Je pense que je pourrais écrire l'histoire et mettre un point. Ouais, mettre un point. Depuis petit, j'ai pris ma peur à regarder mon corps, toucher mes mains et serrer très fort les bras qui m'ont vu naître, sans doute en recherche de réconfort. Je comprenais pas comment la culture de mon père me rendait différent. Je voulais pas l'admettre. Ça rendait-il compte de la douleur de la mère quand ils ont comparé ma peau à la couleur de la merde?
On écoutait des extraits de la série d'émissions Des racines et des rêves. Suite de notre entretien avec Julien Pitinome et Scheherazade Chekaïk Chaïla, co-auteur du petit manuel critique d'éducation aux médias. Alors, depuis 20 ans, il y a une évolution, voire une révolution dans l'information. C'est l'arrivée du numérique. D'un côté, des médias traditionnels en relative crise, moins de lectorat, moins d'audience. Une forme d'appropriation souvent individuelle de la fabrique d'information par les citoyens, via notamment les réseaux sociaux. Une forme d'accaparement aussi par les GAFAM, des gros tuyaux de l'info et de ses recettes. Tout le monde s'adapte, les médias, les journalistes, et les gens qui mènent des projets éducatifs aussi s'adaptent aux nouvelles manières de faire, notamment chez les jeunes.
Ben, il faut considérer qu'aujourd'hui, avec l'ère du numérique, tous les médias qui arrivent, tous les médias qui essayent de s'implanter sur les réseaux sociaux un peu plus, ils ont un temps de retard sur la pratique des jeunes. En fait. Un truc qui est important, que nous, on constate, en fait, c'est que quand on pratique les réseaux sociaux, on pratique l'ère du numérique, mais en fait, les jeunes ont des pratiques qui sont beaucoup plus décomplexées que les nôtres. Et ce travail-là, en fait, il nous permet de faire des allers-retours entre nos pratiques de journalistes, ce qu'on fait en atelier avec eux, et de se dire qu'en fait, l'ère du numérique, en fait, est quelque chose qu'on doit faire avec, c'est sûr. Je pense que c'est pas un mal. Enfin, voilà, moi, je suis photographe et je travaille avec du numérique et de l'argentique, et c'est extrêmement compatible en fonction du travail que je fais. Mais en tout cas de se dire qu'aujourd'hui voilà, il y a ces outils qui existent et les gens deviennent médias aussi, donc ben, peut-être que si on discutait, si on produisait ensemble, etc., ben, on pourrait tous pratiquer des choses qui nous correspondent. Alors c'est ça aussi, pardon, je voulais revenir sur un truc, c'était que les médias ont un temps de retard, pas que juste sur la technologie, en fait, même sur les sujets. Aujourd'hui, les réseaux sociaux vont extrêmement vite. Et si il y a moins de lectorat, c'est que peut-être les journaux, les médias, en fait, peuvent se poser la question pourquoi il y a moins de lectorat. Et c'est pas juste la question du numérique, en fait. C'est peut-être que la part des habitants, la part des citoyens à l'intérieur, la parole des citoyens, ce que se sentent représentés, etc. Ça pourrait être un long débat, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se joue sur. Il y a une ère numérique qui se développe, tout le monde s'y accroche. Les GAFAM en font leur business, les médias en font aussi un business. Mais surtout, en fait, il y a des consommateurs et des gens qui pratiquent à l'intérieur, quoi. Et donc voilà. Donc il y a quelque chose qui s'organise, qui se construit, se déconstruit. Et nous, dans nos pratiques aujourd'hui, même de journalistes et même de production de contenu, en fait, le numérique est un axe important. On nous demande de plus en plus de faire des ateliers autour des réseaux sociaux, de la prévention sur les réseaux sociaux, et la consommation, en fait, du smartphone notamment, en fait, est pleine de représentations par les personnes dites adultes, entre guillemets, avec un regard très descendant et condescendant sur les jeunes, en disant ils consomment mal, etc. Et Sherazade a réalisé une série qui s'appelle Dans ton tel et qui parle de questions du téléphone et des réseaux sociaux.
Ou la transition là.
la passe décisive. Faut que je marque le pic avant. En fait, oui, justement, dans ton tel, c'est une série qu'on a coécrite avec un autre journaliste et qui est née en fait de discussions qu'on avait après mes ateliers, où justement je lui racontais à quel point j'étais marquée par le fossé qui existait entre des représentations et un discours assez formaté, assez dominant sur le rapport aux réseaux sociaux et aux smartphones des jeunes. Toujours vu à travers le prisme des dérives, des risques, de la prévention des risques, etc., qui sont des réalités que je ne nie pas du tout. Hein. Il y a des vrais sujets sur les risques avec les réseaux sociaux et les problèmes que ça peut poser, notamment à l'adolescence. Mais du coup, j'entendais jamais parler de tout ce qui se passait de finalement d'assez intéressant aussi autour de « je construis mon identité à travers l'usage que j'ai des outils numériques ». J'apprends des choses, j'apprends des langues, par exemple. Donc je voyage aussi. Je teste des choses quand je suis un peu créative. Je me politise. Enfin, voilà, il y avait toutes ces choses-là qui participent à la construction des adolescents et des adolescentes qui n'apparaissaient pas et que moi, j'entendais à travers les discussions que j'avais avec des classes sur bah, « Tiens, comment vous vous informez ?» qu'est-ce que vous utilisez au quotidien, et puis de fil en aiguille, j'apprenais beaucoup de choses. Et donc, je me suis dit, ça mériterait de faire une série de portraits qui raconte ça, qui raconte autre chose de la manière dont on peut utiliser son téléphone portable quand on a entre 15 et 20 ans, sont un peu plus âgées, entre 16 et 20 ans. Et du coup, tendre un autre miroir aussi aux adultes et à d'autres adolescents que celui simplement du fait qu'ils passent beaucoup trop de temps, c'est ce qu'on entend beaucoup, sur leur téléphone. Effectivement, ils passent beaucoup de temps, mais ils n'y font pas que des choses débiles. Il y a aussi des choses intéressantes qui méritent d'être discutées, d'être regardées, d'être entendues.
Finalement, votre livre, il parle pas seulement d'éducation aux médias, hein, il fait réfléchir de manière plus générale sur le paysage médiatique, hein, comment l'information est fabriquée. Tu en as parlé, Julien, dans quelles conditions, à qui appartiennent les médias, quelle est la condition sociale des journalistes, etc. Un débat qui est assez absent, qui est quand même largement passé sous silence par les médias eux-mêmes, et pourtant un débat nécessaire dans la société.
Je pense que dans les rédactions, ça discute de ça quand même. Parfois, ça se rend même assez compte hein, des limites de l'absence de représentativité que peuvent avoir certaines rédactions. Parfois, ça a même été un argument marketing hein, pour certains médias qui se sont lancés. De dire qu'ils étaient beaucoup plus divers, qu'il y avait une plus grande diversité chez eux que chez les autres. Mais oui, c'est un vrai sujet qui mérite qu'on en discute toujours parce qu'il y a encore des choses qui fonctionnent pas et qui font qu'on a vécu notamment les Gilets jaunes il n'y a pas longtemps, 2018. Et je pense que pour les médias, dans leur globalité, tout type de médias, c'est aussi pris dans la figure, et tout journaliste est pris aussi dans la figure, cette espèce de fossé, de fracture avec ce mouvement qu'on n'a pas vu venir, qu'on a vachement caricaturé aussi, mais qui a aussi renvoyé aux médias leur déconnexion, leur propre déconnexion avec le terrain, avec ce qui préoccupe les gens au quotidien. Et notamment dans des lieux qui ne sont pas les grandes villes, qui ne sont pas les centres urbains où sont concentrés les médias, qu'ils soient régionaux ou qu'ils soient nationaux. Et donc, ça a aussi renvoyé aux médias cette nécessité, aux journalistes, cette nécessité de s'interroger pourquoi ils font leur travail et pour qui et en direction de qui. Et du coup, que quand ils ne connaissent pas les réalités sociales, sociologiques, économiques, dans lesquelles les gens vivent en dehors de leur propre milieu, c'est un problème en fait aussi pour raconter ce qu'on prétend faire, quoi, raconter le monde.
Dernière question, dans votre parcours personnel et professionnel, est-ce que cette expérience éducative nourrit aussi votre approche, votre travail de journaliste, votre réflexion qu'est-ce que ça vous a apporté de quelque part vous retrouver un peu prof quand même, peut-être.
Ce qui est certain, c'est que on disait tout à l'heure déjà, c'est que ça nourrit en fait faire des ateliers d'éducation média, faire de la formation d'éducation média, ça nourrit évidemment nos pratiques parce qu'en fait on est connecté avec les gens. Quand je suis au Labo 148, je fais de l'éducation média et je suis connecté avec cette bande de 40 jeunes et qui me fait aussi réfléchir sur comment je travaille, sur les représentations qu'ont les jeunes, sur les sujets qui les intéressent. Et que moi, quand je retourne après sur le terrain plutôt journalistique pour moi produire en fait, je suis nourri aussi par ce qui les touche, par les regards. Et donc, du coup, quand moi, je réalise des reportages, comme là, on est en train de réaliser à la cravache à Marseille, j'ai en tête aussi l'impact que pourrait avoir mon travail derrière. Parce que moi, je me retrouve le lendemain, en fait, avec les jeunes qui ont mangé les reportages à la télé. Et tu te dis, en fait, le journalisme, c'est pas que ça, en fait. Et que, voilà. Du coup, ça, moi, ça nourrit ma pratique. Et aujourd'hui, je conçois pas ou peu en tout cas, pas du tout même d'ailleurs, de faire des projets d'éducation média ou d'éducation même de production artistique, documentaire, etc. sans lien avec les personnes. C'est-à-dire que là, typiquement, on est dans un quartier, on passe toute la semaine là, on fait du lien avec tous les habitants, on reste avec eux, on fait des ateliers parce que ces ateliers permettent aussi à ce qu'il y ait des choses qui émergent. Et puis, moi, je réalise aussi des images là-dedans. Et voilà, en fait, du coup, tu vois ce que moi j'imagine vraiment, c'est un truc des allers-retours qui s'auto-nourrissent en fait et qui me permettent aussi de vivre aussi parce que économiquement, il ne faut pas le nier non plus. La presse, c'est compliqué, être pigiste, c'est compliqué et être pigiste photo, c'est aussi très compliqué. et continuer à réfléchir. Et ça, je trouve ça important.
Et moi, j'allais réagir sur le fait de se sentir professeur. Moi, je ne me suis jamais sentie prof ou à la place du prof ou dans une posture de prof parce que j'ai toujours gardé en tête que, justement, j'étais journaliste et y compris dans mes ateliers d'éducation média, je suis une journaliste en intervention et on fait du journalisme ensemble. Voilà, je ne suis pas à la place du prof, pas à la place du pion qui surveille une classe. Pas, voilà, je suis vraiment à un autre endroit. Et c'est aussi, je pense, ce qui fait que ça nourrit beaucoup nos pratiques, c'est que du coup, on continue à faire notre métier à travers ces ateliers. On fait notre métier, en fait, à travers ces ateliers. On fait du journalisme, on réfléchit, ou du documentaire, on réfléchit à qu'est-ce qu'on a envie de raconter, pourquoi, comment. Et donc, on est encore en train de faire notre boulot, sauf qu'on le fait à un endroit qui est différent, avec des personnes qui ne sont pas professionnelles et qui vont apporter des choses et auxquelles nous, on va apporter des choses aussi. Et du coup, forcément, on discute, on réfléchit à comment on aborde des sujets, comment on se comporte sur le terrain, comment notre travail peut avoir un impact dans un territoire ou dans la vie des gens, une fois que c'est publié, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique. Et du coup, moi, dans ma pratique de journaliste, ça m'a vraiment aussi beaucoup plus poussé vers un journalisme que je faisais peut-être beaucoup d'instinct avant de conscientiser tout ça, où ça me paraissait important pour moi, ben, justement, de pouvoir aller dans un endroit en me disant, ben, même une fois que ça sera publié, je peux y retourner. Et je sais que je peux y retourner en étant, en étant tranquille avec ma démarche, en pouvant me confronter aux gens si jamais ils sont pas d'accord, parce que voilà, j'ai pas cherché à trahir, j'ai pas cherché à ceci, cela. Et donc ça, je pense que je le faisais de manière assez instinctive. Aujourd'hui, je le fais de manière très conscientisée, c'est-à-dire que pour moi, mon journalisme, il est de plus en plus documentaire et je fais de moins en moins, et y compris pour les médias traditionnels pour lesquels je travaille, je continue à faire de l'actualité chaude parce que c'est important d'en faire, et encore plus quand on travaille dans un quotidien, on peut pas s'en détacher. Et je continue à faire des choses où je pars 2 heures sur un endroit et je rends un papier dans la foulée, et ça participe à faire l'actualité qu'on dit chaude, de flux. Mais je propose quasi systématiquement plutôt des sujets qui, en fait, sont des sujets que je vais suivre sur des mois, des années, et avec qui, sur lesquels j'ai des contacts vraiment très forts et très approfondis avec les gens. Et du coup, je trouve que ça, c'est quand même, pour moi, c'est un vrai changement. Et c'est un vrai changement qui naît aussi de toutes ces réflexions qu'on peut avoir à travers le fait de faire du journalisme avec des gens qui ne sont pas des professionnels des médias, mais qui nous invitent en fait à déconstruire notre posture et à continuer à y réfléchir, et du coup, mettre en pratique ou remettre en question des choses, et donc soit faire évoluer, soit affirmer des manières de faire, soit les changer quand on considère que ça ne va pas.
Et ce bouquin là qu'on a sorti collectivement avec du coup La Friche et du Média, collectif de chercheurs, vient un peu faire le, pas un point, mais en tout cas faire un état des lieux de ce que nous on a rencontré, de tout ce qu'on a mis en place, réfléchi et travaillé aussi collectivement avec les chercheuses et les chercheurs avec qui on a qui ont participé aussi au projet, qui ont accompagné des choses sur lesquelles on travaille, les résidences de journalistes, le Labo 148. Et voilà, il s'est passé quelque chose et on s'est dit, c'est peut-être le moment aussi de se dire que dans ce champ de l'éducation média, il y a des courants qui peuvent exister et que nous, on assume de faire de l'éducation populaire aux médias avec des valeurs qui sur lesquelles nous, on se retrouve. Et aussi cette idée que par la pratique, on apprend énormément et que justement, brisons ou en tout cas, éclatons un peu les cadres traditionnels, habituels, très descendants et tendons vers une horizontalité au maximum où les gens peuvent se saisir eux-mêmes des choses. Donc voilà, donc ce livre aussi est une synthèse un peu de l'ensemble de ces réflexions et des expériences pratiques qu'on a pu vivre ou que d'autres ont pu partager avec nous.
Julien Pitinome, photographe roubaisien et coordinateur du projet Le Labo 148. Il fait aussi partie du collectif Œil et de Fumigène Mag. Et Sheherazade Sheikh Shaila, journaliste, pigiste, documentariste, correspondante dans la région de France pour Libération. Tous deux font partie du collectif La Friche. Et avec ce collectif et le collectif de chercheuses et du média, ils ont écrit ce livre de partage d'expériences et de réflexions, Petit manuel critique d'éducation aux médias, pour une déconstruction des représentations médiatiques. C'est sorti aux éditions du Commun. Un entretien réalisé par Radio PFM, média associatif libre et sans pub, dans le cadre du Salon du Livre, d'expression populaire et de critique sociale. That I knew you lacked, they still consider me a new jack. All the critics you can hang on my hold the rope, but they hope to the Pope and pray it ain't dope. The follower of Farrakhan, don't tell me that you understand until you hear the man. They'll book up the new school rap game. Writers treat me like Coltrane, insane. Yes to them, but to me, I'm a different kind. We're brothers of the same mind, unblind, caught in the middle end, not surrendering. I don't rhyme for the sake of riddling. So claim that I'm a smuggler. Some say I never heard of ya, a rap burglar, false media, we don't need it, do we? It's fake, that's what it be to you, dig me? Yo, Terminator X, step up on the stand and show these people what time it is, boy. Don't believe the hype. Don't believe the hype. It's a sequel. As an equal, can I get this through to you? My 98 booming with a trunk of funk. All the jealous punk can't stop the dunk. Coming from the school of hard knocks. Some perpetrate, they drink Clorox. Attack the black because I know they lack exact the cold facts. And still they try to Xerox. The leader of the new school, uncool. Never played the fool, just made the rules. Remember there's a need to get alarm. Again I said I was a time bomb. In the daytime, radio's scared of me, cause I'm mad, plus I'm the enemy. They can't come on and play me in prime time, cause I know the time, plus I'm getting mine. I get on the mix late in the night, they know I'm living right, so here goes the mic sight. Before I let it go, don't rush my show. You try to reach and grab and get elbow. Word to herb, yo, if you can't swing this, learn the words, you might sing this. Just a little bit of the taste of the bass for you. As you get up and dance at the LQ, with some denied, defiant, I swing bolos. Then they clear the lane, I go solo. The meaning of all of that, the media is the whack. As you believe it's true, it blows me through the roof. Suckers, liars, give me a shovel. Some writers I know are damn devils. From them I say don't believe the hype.
Yo Chuck, they must be on the pipe, right?
Their pens and pads I snatch cause I've had it. I'm not an addict, fiend it for static. I see their tape recorder and I grab it.
No you can't have it back, silly rabbit.
I'm going to my media assassin, Harry Allen, I gotta ask him.
Yo Harry, you're a writer, are we that tight?
Yeah, boy, part two, bum rush the show. Yo, Grip,
get the green, black, and red in. Gold down, countdown to Armageddon. 88, you wait, the S1s will. Put the left in effect, and I still will. Rock the hard jams, treat it like a seminar. Reach the bourgeois and rock the boulevard. Some say I'm negative, but they're not positive. But what I got to give?
The media says this.
Red,
yo,
black, and green.
Yo, don't believe that hype. They got to be beating,
you know what
that
I
pipe.
Mean?
You know what I'm saying? Yo, the megas got them going up to see Captain Kirk like a jerk and they out of work. Let me tell y'all a little something, man. A lot of people on daytime radio scared of us because they too ignorant to understand the lyrics of the truth that we pumping into them clouds, that brain cells, that they're spotting under them wooden skulls they call caps, you know what I'm saying? But the S1s are straightening it out quick, fast, in a hurry. Don't worry, flavor vision ain't blurry, you know what I'm saying? Yo, Terminator. Don't believe the hype.
don't believe the hype.